Open Blues.
Bonjour, bonjour et merci de nous retrouver pour l'émission Open Blues. Je suis Alain sur Oxy Web Radio et je vous invite à poursuivre l'étude des albums importants parus entre 1965 et 1975, tous inspirés fortement du blues.
Quadrophenia est le sixième album studio du groupe de rock anglais The Who, sorti en double album le 26 octobre 1973 chez Track Records. Il s'agit du troisième opéra rock du groupe, les deux précédents étant A Quick One While He's Away et ensuite Tommy. Se déroulant à Londres et à Brighton en 1965, l'histoire suit un jeune mode nommé Jimmy et sa recherche d'estime de soi et d'importance. Quadrophenia est le seul album des Who entièrement composé par Pete Townshend. Le groupe a commencé à travailler sur l'album en 1972, essayant de réitérer le succès de Tommy et Who's Next, qui avaient tous deux remporté un succès aussi bien au plan critique que commercial. Au plan musical, l'album utilise de manière significative les synthétiseurs multipistes et les effets sonores dont Pete Townshend est devenu un spécialiste, ainsi que les parties de corps de John Entwistle comme dans Tommy, en plus des styles de jeu typiques du groupe, en particulier ceux de Keith Moon sur sa batterie ou avec son chant toujours cocasse. Enfin, Roger Daltrey montre ses qualités vocales toujours aussi puissantes. Seule ombre durant les sessions, c'est la rupture avec Keith Lambert, leur manager depuis leur début. Pete Townshend supportant de moins en moins son laisser-aller durant les sessions et ses frasques financières. Il faut reconnaître que succéder à Tommy et à Who's Next après une performance à Woodstock en 1969 qui a mondialisé leur audience, le nouveau rock opéra a du mal à s'imposer, malgré une musicalité plus riche. L'histoire racontée est compliquée et le spectacle musical n'est pas facile à présenter sur scène. Mais le temps va corriger peu à peu tout ça, car les Who restent quand même un grand groupe de rock. Dans Quadrophenia, Pete Townshend a consacré une chanson à chaque membre des Who. Ainsi, chacun fait l'objet d'un thème de chanson. J'en ai choisi deux sur quatre, car les autres ne sont pas faciles à placer, soit du fait de leur durée, soit de leur bizarrerie. Pour John Entwistle, né John Alec Entwistle en octobre 1944 à Chiswick, près de Londres, mais décédé en juin 2002 à Los Angeles, son thème est à la 16e et avant-dernière chanson, Dr. Jimmy. John était un auteur-compositeur et bassiste, surnommé The Ox, le bœuf, ou encore Thunderfingers, les doigts de tonnerre. La carrière musicale d'Entwistle a duré plus de 4 décennies. Il était le seul membre du groupe à avoir une formation musicale formelle et a également fourni des accompagnements et des voix principales à l'occasion. Réputé pour ses capacités musicales, l'approche instrumentale d'Entwistle utilisait des lignes de plomb pentatonique et un son alors inhabituel et riche en aigus qu'on a qualifié de full treble, full volume. Il a été élu meilleur bassiste de tous les temps dans un sondage des lecteurs du magazine Rolling Stone en 2011 et dans son numéro spécial 100 plus grands bassistes de tout le temps en 2017, le magazine Bass Player a nommé Entwistle au 7e rang. C'est dire son importance. C'était aussi le plus discret des 4 membres des Who. Plutôt que Dr. Jimmy, trop longue pour passer ici, j'ai choisi The Real Me, qui est la 2e piste de l'album et la première avec des paroles. Elle évoque un garçon nommé Jimmy, un jeune mode anglais aux 4 personnalités distinctes. La chanson décrit comment il traite avec colère plusieurs individus pour identifier le vrai moi. La chanson est sortie en single accompagnée en face B de I'm One aux États-Unis et au Canada en 1974. La chanson présente une performance de basse impressionnante de John Entwistle. Selon une interview de 1996, John a dit que la partie de basse avait été enregistrée sur la première prise, alors que John pensait que c'était un échauffement. Impressionnés, les membres gardèrent cette prise qui reste encore aujourd'hui, à mon oreille, incroyable. Can you see the real me? Can you? Can you? Bon ben voilà, on peut reprendre notre calme, commencer à respirer profondément. C'était The Real Me, parlez où ? Sur OxyWeb Radio. J'ai tâché de vous faire une sélection la plus rationnelle possible et la plus intéressante pour moi de ce Quadrophénia. Et on en vient donc à la dernière chanson de la première face, The Punk and the Godfather, le punk et le parrain, où le protagoniste de Quadrophénia, Jimmy, va voir un groupe de mottes se produire, seulement pour être déçu que le groupe ne fasse qu'une partie de la culture mode qui composait le public. Dans la chanson, Townsend essayait apparemment aussi de comprendre les racines des Who, son attirance comme point de ralliement et son rejet éventuel par Jimmy. Selon une critique de Rolling Stone et selon le biographe des Who, John Atkins, Jimmy remet en question l'équilibre des pouvoirs qui prévaut entre la rockstar et ses fans. La chanson cite le tube des Who de 1965, My Generation, qui était l'étendard des Who. Selon la partition publiée sur Music Note par Sony, la chanson est définie dans la signature rythmique du temps commun. Il est composé dans la tonalité de la majeure avec la tessiture vocale de Roger Daltrey allant de Ré à Si, et John Entwistle a fourni une ligne de basse mélodique, ça change le précédent morceau, qui est très prééminente dans le punk et le Godfather. Tout ça pour dire que prête attention à la voix de Roger Daltrey qui est assez impressionnante. Richie Enderberger d'All Music a souligné la chanson comme l'une des meilleures pistes de Quadrophenia. Karen Rose écrivant pour Billboard que la chanson est l'un des moments emblématiques du disque. C'est celle qui s'ouvre sur des accords de puissance retentissants, des percussions parfaitement entrecoupées et de beaux chants. Cette piste est représentative du style des Who. The Punk and the Godfather a été régulièrement joué sur scène et malgré sa faible notoriété, c'est devenu un des titres favoris sur scène.
Oh,
C'était The Punk and the Godfather par les Who sur OxyWeb Radio. À l'époque du double album, on tournait le disque et on arrivait à la première chanson de la deuxième face. Et c'est l'un des principaux moments, la chanson I'm One, je suis unique, qui est un des principaux moments d'introspection répartis tout au long du récit, et également une indication que Jimmy, le personnage principal de l'histoire sur l'album, n'est peut-être pas aussi mode qu'il souhaiterait apparaître, compte tenu de la façon dont il demande à un autre mode où il a obtenu ses vêtements. Et ça, les modes auraient perdu la face en demandant à un autre mode d'où il tirait ses vêtements. Écrite et chantée par Pete Townshend, la chanson est depuis devenue l'une des préférées des fans. Pour Pete, c'est l'occasion de parler de sa jeunesse troublée. Comme il l'a souvent dit, la guitare était tout ce qu'il avait. Il n'était pas assez costaud pour être dans un gang, pas assez beau pour aller avec les filles, pas assez intelligent pour réussir à l'école, et pas assez bon sur ses pieds pour être un bon joueur de football. Bref, c'est un loser. Avec cette chanson, il s'affirme comme étant un mode. C'est un mouvement de jeunes soucieux de la mode, et en fait, comme Pete, Jimmy, le héros de l'histoire, pense qu'il n'a pas grand-chose pour lui, mais au moins, il existe et il est unique. C'est la traduction du titre, I'm One. La chanson présente une ouverture acoustique suivie de la participation du reste du groupe, et c'est important de le noter, à l'exception du chanteur Roger Daltrey. I'm One sera l'un des 10 morceaux originaux de Quadrophenia à apparaître sous une forme remixée lorsque le film va paraître en 1979. Voici I'm One.
Every year is the same and I feel it again. I'm a loser, no chance to win. Leaves start falling, come down is calling, loneliness starts sinking in. But I'm one, I'm one, and I can see that this is me, and I will be. You'll all see I'm the one. Those blue, blue jeans, faded, patched secrets so tight. Where do you get that walk oh so lean? Your shoes and your shirts all just right. I'm one, I am one, and I can see that this is me, and I will be. You'll all see I'm the one. I got a Gibson without a case, but I can't get that even tanned look on my face. Ill-fitting clothes and I blend in the crowd. Fingers so clumsy, voice too loud. But I'm one, I am one, and I can see that this is me, and I will be. You'll all see I'm the one.
C'était I'm One, par les Who, sur OxyWeb Radio. On en arrive à la troisième phase du disque Quadrophenia avec 515, qui est la chanson que j'ai choisie pour illustrer le rôle de Roger Daltrey, alors que dans Quadrophenia, c'était Helpless Dancer, une chanson qui reste à mon goût un peu étrange. Roger Harry Daltrey est né le 1er mars 1944 dans l'ouest de Londres, Au sein des Who, c'était le chanteur, au jeu de scène spectaculaire, presque violent en apparence. C'est aussi un auteur-compositeur, acteur et producteur de films. Il a eu des chansons à succès au sein des Who, comme My Generation, Pitbull Wizard, Won't Get Free Again, et tant d'autres. Mais il a mené aussi une carrière solo à partir de 1973. Depuis lors, il a sorti 10 albums en solo, fait en studio, 5 albums de compilation et un album live. Il a même sorti un album avec Wilco Johnson, ex-guitariste de Dr. Feelgood, que je trouve très réussi. Il est paru en 2014 sous le titre Going Back Home. Sur scène, il existait une vraie rivalité entre son jeu de chanteur avec une sorte de chorégraphie et l'explosivité guitaristique de Pete Townshend ou le massacre de batterie par Kez Moon. C'est cela qui a marqué leur histoire, cet antagonisme entre les trois musiciens. John Entwistle resta à l'arrière posément. La chanson est sortie en single et a atteint la 20e place dans le chart du Royaume-Uni pour les singles, tandis que la réédition de 1979, qui accompagnait le film, a atteint la 45e place du Billboard Hot 100. Les paroles de 515 décrivent le protagoniste de Quadrophenia, Jimmy, se rendant à Brighton en train, où il se retrouve entre deux hommes de la ville, se donnant une contenance en mangeant des friandises. Action un peu banale pour un mode, et pour quelqu'un rêvant de bagarre entre gangs, mais qui s'écrase sous le poids de la société. Voici 515, 515. c'était 515 par les Who sur OxyWeb Radio. Pour fuir le côté sordide de sa jeunesse en ville, Jimmy a déménagé à Brighton, qui est une station balnéaire anglaise. Dans la chanson « Sea and Sand »,« Mer et Sable », on dépeint son affinité pour la plage comme une évasion des réalités désagréables de la maison et de la vie, ainsi que des souvenirs de Jimmy lors des rassemblements de mode passés à Brighton. Avec le chant de Roger Daltrey et de Pete Townshend, avec des parties lentes de rêve et des parties rapides exprimant la colère, tout ça se succède jusqu'à un final qui reprend le premier single des Who, « I'm the Face ». Sea and Sand est presque mini-opéra en soi, et c'est l'un des morceaux les plus caractéristiques de l'album. C'est l'une des chansons de l'album qui fait référence au mouvement mode. Sea and Sand marque également un point de réflexion dans le récit. Après que le protagoniste ait quitté sa maison, il est laissé sur la plage. Il réfléchit à son inadéquation amoureuse et à son incapacité à s'intégrer à la maison ou aux autres billets et visages de la sous-culture mode. La chanson parle également de l'aliénation croissante de Pete Townshend vis-à-vis de son groupe et de la scène musicale dans son ensemble. En tant que tel, il sert de signe révélateur des années à venir et de l'état des Who pendant et directement après cette période. En arrivant à Brighton, Jimmy s'égaye un peu, un jeu de mots qu'a voulu Pete sur la tendance sexuelle a priori refoulée chez lui. Il parle de disputes à la maison et est un peu sarcastique en se remémorant la soirée sur la plage avec son ancienne petite amie qui avait tourné à l'échec. Je rappelle que nous sommes en 1965 et la scène mode est déjà en train de s'effondrer. Et que fait-il d'autre que d'aller à Brighton, sinon juste pour s'en souvenir ? Les jours fous où 300 000 modes de Londres sont descendus dans cette petite ville balnéaire remontent à seulement 3 semaines, mais il vit déjà dans le passé. Forcément, cela marque l'esprit d'un jeune adolescent.
I just couldn't face going on.
C'était Sea and Sand par les Who sur OxyWeb Radio. Drown, qui veut dire noyer, a fait l'objet d'une remarque de la part du critique musical Charlesworth. Pour lui, il s'agit d'un rock dur basé sur du blues. Il déclare que le groupe aimait la jouer en concert car elle était moins complexe que les autres chansons de Quadrophenia. C'est une des chansons intéressantes de l'album. Le biographe des Who, John Atkins, considère qu'elle est la plus représentative de Quadrophenia, de par sa simplicité directe, sans effets spéciaux, juste pour dramatiser le ressenti ou accroître la complexité musicale de la chanson. Drown a été initialement écrite comme une ode à Mère Baba au début des années 70. Pete Townshend l'a chantée face à la tombe de Mère Baba lors de sa première visite en Inde en janvier 1972. Et il faut savoir que Mère Baba fut une sorte de guide spirituel important pour Pete. Pour le héros de Quadrophenia, Jimmy, il exprime son désespoir et le nihilisme. En fait, c'est une chanson d'amour, l'amour de Dieu étant l'océan dans lequel chaque goutte d'eau représente un être vivant. Mère Baba a dit « Je suis l'océan d'amour, je veux me noyer dans cet océan, la goutte sera alors un océan lui-même. » Alors forcément. À la fin de la chanson, on entend des mouettes, des bruits de foule et des vagues, ainsi que Pete Townshend marchant en chantant le sixième couplet de Sea and Sand. C'est le signe que Jimmy se dirige vers l'eau, puis poursuivre son destin. Pour Mike Segreto, un biographe des Who, l'eau dans la chanson est comme une métaphore de Dieu et la chanson elle-même comme une métaphore de la recherche de spiritualité ou la quête d'un affluent menant à Dieu. C'est exactement l'état d'esprit de Pete Townshend à l'époque. This can't c'était Drowned par les Who sur OxyWeb Radio. Bellboy est la chanson de thème pour Keith Moon. Keith John Moon est né en août 1946 et a grandi à Wembley. C'était le batteur indétachable de l'histoire des Who. Il était connu pour son style de jeu unique et son comportement excentrique, souvent autodestructeur, et sa toxicomanie également. Après avoir joué avec un groupe local, les Peach Combers, il rejoint les Who en 1964 avant qu'ils n'enregistrent leur premier single. Keith Moon était reconnu pour son style de batterie, capable de vitesse et de changement de rythme sans jamais jouer faux ou à contre-temps. Tout au long du mandat de Keith Moon avec les Who, sa batterie n'a cessé de croître et il utilisa régulièrement des toms de basse dans sa configuration. En plus de son talent de batteur, Keith Moon a développé la réputation d'un destructeur de kits de batterie en concert et aussi les chambres d'hôtel en tournée, en commençant par les toilettes, puis le jet de téléviseur par la fenêtre. Il est décédé en septembre 1978, des suites de son addiction à l'alcool et aux drogues. Il a laissé une fille, Amanda, dite Mandy, très discrète comme sa mère, Kim. Celle-ci s'est remariée avec l'organiste des Small Faces, Young McLagan, et a passé des jours beaucoup plus heureux et plus tranquilles. Pour Bellboy, outre la voix principale de Roger Daltrey, on entend la voix de Keith Moon qui parle ou chante en exagérant une voix caricaturale avec un accent de Cockney typique. Sauf au milieu du pont et à la fin où c'est la voix naturelle de Keith qu'on entend. Les cris de Bellboy expriment la désillusion régnant tout au long de l'album. Lyriquement, c'est la goutte d'eau pour Jimmy, qui vient de découvrir que son héros, Les Faces, est devenu groom d'hôtel, un Bellboy, et non plus un mode. Cruelle désillusion, vraiment.
Thank you. diddly button down. Turn the bloody baggage out. Always running at someone's ear. You know how I'm feeling. Always running at someone's ear.
Et Belle Boy, parlez où ? Sur OxyWeb Radio. Love Reign Over Me, l'amour règne au-dessus de moi, sous-titré Thème de Pete, est la dernière chanson de l'album et c'est fut un incontournable des concerts depuis des années. Love Reign Over Me ainsi que Is It In My Head, également de Quadrophenia, remonte à 1972. Les deux chansons étaient à l'origine destinées à faire partie de l'album autobiographique inédit Rock Is Dead, Long Live Rock. Cela a ensuite évolué en Quadrophenia. Love Reign Over Me concerne le personnage principal de Quadrophenia, Jimmy, qui a une crise personnelle. N'ayant plus de raison de vivre, il trouve une rédemption spirituelle sous une pluie battante. Cela fait référence au commentaire de Mère Baba, selon lequel la pluie était une bénédiction de Dieu. Ce tonnerre était la voix de Dieu. C'est un autre plaidoyer pour se noyer, mais cette fois sous la pluie. Et Jimmy traverse une crise de suicide. Il s'abandonne à l'inévitable, or il va retourner en ville et replonger dans sa vie minable, avec seulement plus de maturité, peut-être. Love Reign Over Me est sorti en single aux États-Unis dans une version écourtée et elle a culminé à la 76e place du Billboard Hot 100. C'est la chanson idéale pour rendre hommage à Peter Dennis Blandford Townsend, né en mai 1945. C'est un guitariste, un chanteur, un autocompositeur évidemment, cofondateur, leader des Who depuis le début. Au fond, Quadrophenia, c'est l'histoire de Pete Townsend et toutes ses vicissitudes vécues depuis sa jeunesse. Et j'essayais tout au long de l'émission de parler en réalité de Pete Townsend au fur et à mesure du déroulement des chansons. Et pour ce qui est de cette dernière chanson, on a généralement loué la performance vocale de Roger Daltrey, les arrangements orchestraux dynamiques et les intéressantes utilisations du synthétiseur. Et là, on en vient à la recherche permanente chez Pete Townsend de nouvelles sonorités, de nouveaux moyens d'expression de sa musique. Love Reign Over Me est un moment où son personnage de dieu du rock, aux cheveux dorés, même si c'est pas vraiment la réalité, fonctionne vraiment et donne à cette chanson toute la force qu'elle mérite vraiment. C'est une très belle fin pour ce rock opéra.
Love!
C'était Love Rain Over Me par les Who sur OxyWeb Radio. À la sortie de Quadrophenia, les critiques ont fait des remarques qui me semblent justifiées. En effet, il manque dans cette œuvre quelques chansons pour être de véritables hits. À part The Real Me, 515 et Love Rain Over Me, les autres sont musicalement bonnes, mais ne seront jamais des hits comme on en a trouvé dans Tommy. Autre difficulté, sur scène, les Who devaient utiliser des bandes avec lesquelles ils ont eu beaucoup de mal à se synchroniser. Ça s'est arrangé avec le temps. Sur Quadrophenia, les Who sont à leur meilleur niveau musical et c'est dommage que cette œuvre soit oubliée. La semaine prochaine, je vous parlerai de Deep Purple et de leur fabuleux album Live paru en 1972. Mais d'ici là, roulez blues!